Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Le coronavirus bouscule à nouveau l'organisation des écoles dans le Jura. De nombreux écoliers se trouvent en isolement ou en quarantaine, ce qui ne facilite pas le suivi pédagogique. Le ministre de la Formation, Martial Courtais, répondra en direct à nos questions. Nouvelle journée importante dans la lutte contre la cinquième vague de Covid-19. Le Conseil fédéral va dire cet après-midi quelles mesures il retient. Tour de piste des enjeux à suivre dans ce journal. L'intégration professionnelle des migrants porte ses fruits dans le Jura. Un programme spécial a été mis en place. Il a permis de procéder à un saut quantitatif et qualitatif en termes de formation et d'emploi. Météo, de plus en plus de nuages au fil des heures cet après-midi et des températures entre moins 2 et 2 degrés. De la neige est attendue en soirée jusqu'en plaine. Le week-end s'annonce maussade. Le coronavirus poursuit sa progression dans le Jura. Le canton a enregistré un millier de nouveaux cas positifs sur ces 17 derniers jours. Parmi eux figurent de nombreux jeunes et écoliers qui représentent près de la moitié des quarantaines actuellement. Du coup, l'école jurassienne est à nouveau ébranlée. Raphaël Chalvera, nous recevons le ministre de la Formation.
Bonjour Marcel Courtais.
Bonjour.
On s'intéresse avec vous non pas aux infections mais à leurs conséquences pour l'école jurassienne. Est-ce que la qualité de l'enseignement est aujourd'hui péjorée à cause de la situation sanitaire ?
Ben vous pensez bien que depuis une vingtaine de mois maintenant, c'est notre souci principal. C'est de continuer à tout prier, et on l'a répété à réitérer reprise, de maintenir absolument l'école en présentiel, parce qu'on a remarqué quand même qu'à distance, ça laissait quelques personnes sur le carreau. Donc on a fait tout ce qu'on a pu, les enseignants, et je les en remercie, ont fait tout ce qu'ils ont pu dans ces phases difficiles. Mais nous tenons absolument à maintenir l'école en présentiel. À l'heure actuelle, vous parlez des quarantaines, c'est vrai. Mais je dois dire quand même que c'est pas à exagérer non plus l'impact de ces quarantaines. Alors c'est vrai que ça bouscule, ça rend tout plus compliqué, ça c'est une certitude. Par contre, nous avons à ce jour 359 écoliers en quarantaine sur plus de 8100 écoliers. Je veux dire, c'est à relativiser quand même si l'impact existe, on est bien conscient de ça.
Alors justement, entre les élèves positifs et le va-et-vient de ces quarantaines, il y a des départs et des retours de quarantaine quotidiennement. Est-ce que les enseignants disposent des outils nécessaires pour mener à bien leur mission ou du moins pour limiter la casse ?
Oui, les outils, on les a. Mais c'est vrai que dans certaines classes, ça a été compliqué. Je pense que ce sont des cas qui sont plutôt rares. Globalement, ça fonctionne bien. C'est quand même ça qu'il faut dire comme message général pour rassurer les parents. Globalement, ça fonctionne bien. On parle, je le disais, 359 cas à l'heure actuelle de quarantaine sur plus de 8000. Donc voilà, à remettre quand même dans la proportion. Après, on ne néglige pas ces situations. On sait que c'est plus compliqué, vous le dites. C'est vrai, c'est très compliqué pour les enseignantes, les enseignants à l'heure actuelle. Et les outils, puisque c'était votre question, nous en avons. Nous avons vraiment notre site EduClass qui a été vraiment mis à jour l'année passée et qui fonctionne bien. Il y a toujours des petites améliorations à faire, bien évidemment. Mais maintenant, les enseignants peuvent mettre, avec leur accès spécifique, mettre l'avancée des travaux et les demandes de travaux sur ce site. Donc ça, c'est vraiment un truc tout neuf. Que d'autres cantons nous envient, puisqu'on a même des classes d'autres cantons qui viennent sur notre site. Donc ça fonctionne bien, et c'est un élément parmi d'autres. J'en cite encore un, peut-être pour souligner quand même le souci que nous avons au service d'enseignement. Le service d'enseignement, il y a quelques semaines, a demandé à toutes les enseignantes et enseignants de l'école obligatoire de préparer une sorte de livret d'entraînement. On avait anticipé ces quarantaines pour que l'élève ne soit pas laissé livré à lui-même. Donc il y a vraiment ce souci de suivi. Maintenant, sûrement qu'il y a encore quelques petits ajustements, mais globalement, véritablement, c'est mis en place.
Alors, votre message, c'est que globalement, ça fonctionne bien. Il faut garder le positif. Tout de même, ça prend, au moins sur le plan administratif, une sacrée énergie aux enseignants. Certains semblent, et le disent clairement, d'après nos informations, ne plus s'en sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de la population, comme nous politiques, comme vous dans vos métiers aussi, on est tous un peu débordés par cette situation. C'est vrai que c'est pénible, c'est pesant. Je dois dire qu'on en a tous marre, ça c'est une évidence. Donc moi je ne peux que réitérer notre soutien, mon soutien au corps enseignant par rapport aux efforts qu'ils font. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, maintenant ça fait un moment que ça dure. Je vois aussi le positif à travers ça, quand on rencontre notamment les associations de parents d'élèves, qui, c'est leur rôle, ont toujours un regard critique sur l'enseignement. Eh bien ces derniers mois, on a senti beaucoup de gratitude de la part des parents d'élèves dans ces associations pour dire merci pour tout le boulot que font les enseignants. Donc voilà, je retiens cet aspect positif, mais c'est vrai, je ne vous cache pas qu'on espère que ça ne va pas durer encore des mois parce qu'on est tous vraiment sous pression.
Pour revenir sur l'aspect pédagogique, il y a le suivi des cours, mais aussi les notes, ces fameux contrôles, il faut évaluer les élèves. Est-ce que chaque élève peut encore être aujourd'hui sur un pied d'égalité limité en termes d'apprentissage, de temps de répétition, ou est-ce que l'écart ne se creuse pas encore davantage entre les élèves qui ont de la facilité et ceux qui ont davantage de difficultés ?
Alors vous mettez le doigt effectivement sur ce qu'on avait remarqué l'année passée avec l'école à distance, qui a fonctionné un court laps de temps, c'était pour dépanner. Il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent, ça c'est clair, au niveau de la qualité de l'enseignement et de ce souci dont vous parlez de fossé. Donc évidemment, on travaille à ça. On avait pris deux mesures qui ont assez bien marché. C'était vraiment ce souci des cours d'appui, des mais 2020, puis août 2020, puis encore ce mois d'août 2021, nous avons chaque fois demandé aux écoles le nombre de leçons d'appui qu'elles souhaitaient en plus pour aider, parce que elles, pour aider les jeunes qui en ont besoin, parce que ces écoles voient dans le terrain qui en a besoin. On n'a pas voulu faire ça à l'arrosage, mais on a demandé aux écoles qu'est-ce que vous avez comme besoin de cours d'appui supplémentaire, et ça a été mis en place. Et le cas échéant, on peut encore envisager ça. J'en parlais avec le chef de service pas plus tard que ce matin. On peut encore envisager ça pour le semestre qui vient. Mais c'est vrai aussi que on partage cette crainte et on met en place justement les éléments que nous avons, les outils que nous avons dans les mains pour éviter que ce fossé se creuse. Je vous cite peut-être un dernier exemple sur lequel nous avons été vigilants, c'est dès qu'il y a distance, il y a besoin d'un ordinateur. Et dans ce sens, et je lance l'appel encore aujourd'hui pour les familles qui en auraient besoin, et on sait qu'il y en a qui sont dans ce cas, on l'avait vérifié l'année passée, on a mis à disposition des ordinateurs pour les familles qui en avaient besoin. Donc ça, c'est possible, ces familles doivent s'adresser à leur direction, et la direction transmet au service d'enseignement qui va fournir ces ordinateurs. Donc là, nous sommes préparés, ce que nous avons mis en place l'année passée peut tout à fait se faire encore maintenant.
Encore une chose, Marcel Courtais, on attend évidemment des décisions du Conseil fédéral cet après-midi, mais au niveau cantonal, est-ce que l'État jurassien anticipe suffisamment les choses, notamment en termes de tests pratiqués dans les écoles ? Est-ce qu'ils sont en suffisance aujourd'hui, ces tests ?
C'était un choix. On a fait ces tests. Là, alors, on a été très clair. Vous vous souvenez que j'avais écrit à tous les parents de l'école obligatoire au mois de juillet, tout début juillet, pour leur dire comment serait la rentrée d'août. Elle était avec les tests. Donc, tout ça, on avait prévu. On a tenu notre ligne. On a tenu notre ligne le plus longtemps possible avec ces tests. Franchement, ça a bien marché. Dans d'autres cantons, ça n'a pas bien marché par rapport à des structures trop grandes. Nous, dans le Jura, il faut reconnaître que globalement, même si j'ai bien compris qu'il y a des gens qui étaient contre, mais disons, globalement, ça a bien fonctionné. Et là, nous sommes prêts à remettre ça en place. Moi, je ne suis pas en souci par rapport à ça, contrairement à d'autres collègues. J'en ai parlé récemment avec des collègues d'autres cantons qui sont un peu en souci. Donc, si le Conseil fédéral nous dit cet après-midi « test pour les écoles », nous, on est prêts à le faire. On attend l'injonction fédérale.
Dernière chose rapidement, la fermeture des écoles, c'est envisagé aujourd'hui dans le Jura ?
Eh bien, tout ce dont je viens de vous parler depuis quelques minutes, c'est justement pour éviter ça. Moi, je pense qu'on ne va pas vers ça, que maintenant, les mesures qui ont été prises ont un rôle efficace. Je vous cite un exemple, les écoles secondaires. On a remis les masques depuis lundi. Là aussi, ça ne fait pas plaisir. Là aussi, c'est une contrainte pour les enseignantes, enseignants, pour les élèves, c'est clair. Par contre, depuis lundi, on a plus de quarantaine. De nouvelles quarantaines dans les écoles secondaires. Donc ça, c'est quand même ce qu'on veut éviter, parce que des parents qui doivent du jour au lendemain avoir un enfant à la maison, c'est aussi un problème. Donc si on peut faire baisser ces quarantaines, c'est quand même un objectif.
Marcel Courtais, merci beaucoup, bonne journée.
Merci à vous.
Le Conseil fédéral doit présenter aujourd'hui son paquet de mesures de lutte contre la contamination au Covid-19. Le couperet va tomber dans l'après-midi. La tâche d'Alain Berset du gouvernement s'avère délicate. Il faut non seulement définir les mesures à prendre sans délai pour endiguer la cinquième vague, mais aussi convaincre de leur justesse. Un défi qui s'apparente à résoudre la quadrature du cercle de Berne, l'analyse de notre correspondant Serge Jubin.
Cinq types de mesures ont été examinées ce matin par le Conseil fédéral. Généralisation du port du masque dans les espaces intérieurs, extension du certificat Covid dans les activités culturelles et sportives d'intérieur et jusque dans l'espace privé et familial, les tests répétitifs à l'école, les mesures sur le lieu de travail et les quarantaines pour les voyageurs. Une seule mesure fait une presque unanimité, l'intensification du port du masque. L'exigence du certificat Covid dans le cercle familial est majoritairement rejetée par les cantons qui ne veulent pas non plus des tests obligatoires dans les écoles. L'obligation du télétravail, même pour les non-vaccinés, ne convainc pas non plus. Quant à la quarantaine pour les voyageurs, elle est critiquée de toutes parts et pas seulement des régions touristiques. Même l'ancien monsieur Covid de la Confédération, Daniel Corr, la trouve inappropriée.
Et voilà pour la présentation du dilemme. Dilemme que le Conseil fédéral devra donc tenter de résoudre. On retrouve Serge Jubin.
Que retiendra le Conseil fédéral ? Et comment s'adressera-t-il ? Aux vaccinés qui ont le sentiment d'avoir fait tout juste et aux non-vaccinés pour lesquels une majorité du Conseil national veut réoffrir les tests gratuits, le fond et la forme doivent être soignés. Alors que l'Union européenne envisage l'obligation de la vaccination, alors que l'Allemagne confine sans ménagement les non-vaccinés, et malgré un scepticisme peu responsable des cantons qui, soit dit en passant, n'ont pas préparé leurs hôpitaux à cette pourtant attendue cinquième vague, le Conseil fédéral doit édicter un panel de mesures claires, efficaces et ciblées sur les personnes problématiques, car la réalité suisse sur le front de la pandémie n'est en tout cas pas meilleure qu'en Allemagne.
Et à l'étranger, un cluster présumé du variant Omicron a été découvert en Norvège. Selon la ville d'Oslo, 17 personnes ont été contaminées lors d'une fête la semaine dernière dans la capitale norvégienne. Une centaine de personnes, pourtant toutes vaccinées, s'étaient réunies dans un restaurant vendredi dernier dans le cadre d'un repas de Noël organisé par leur employeur. 60 personnes ont été testées positives, 17 ont probablement été infectées par le variant Omicron. Un bilan très positif pour l'intégration des demandeurs d'asile dans le monde de l'emploi jurassien. L'association jurassienne d'aide aux migrants, l'AJAM, a fait le point ce matin sur ces différentes mesures d'insertion au marché du travail. Elle a présenté le programme d'aide financière de la Confédération, baptisé AFI. Le concept vise à permettre l'intégration professionnelle des migrants non diplômés dans les domaines de l'horlogerie et de la métallurgie. Une première volée a terminé ce projet pilote de 3 ans et les signaux sont bons, se réjouit le responsable du domaine intégration de la JAM, Jérémy Berbera.
On était parti sur un objectif de 10 personnes placées en 2021 par le programme des aides financières. Et finalement, on est déjà à 13, avec un potentiel de 16 personnes à la fin de l'année. Donc on a vraiment un bilan qui est, je dirais, exceptionnel pour une année de projet pilote. Au niveau de la crise, finalement, c'est vraiment le moment pour pouvoir intégrer les personnes, puisque voilà, 2020, on avait prévu de lancer ce programme pour justement l'année 2021. On l'avait même étendu à la métallurgie parce qu'on pensait que justement, il n'y aurait plus assez d'emplois au niveau du secteur horloger. La chose qui, avec la reprise de l'économie, était complètement fausse parce que voilà, il y a beaucoup de demandes au niveau de l'horlogerie et puis le principal domaine des employeurs qui sont représentés dans le programme AFI sont au niveau de l'horlogerie.
Ni fou ni mort, c'est le titre du livre qui sera présenté dimanche au cinéma Lagrange à Delémont. L'ouvrage est publié aux éditions de l'Air. Il compile des témoignages d'anciens prisonniers politiques pendant la dictature militaire en Argentine dans les années 70. Sergio Ferrari, co-auteur, était l'invité de la matinale. Il a lui-même été emprisonné pour son engagement contre la dictature. Le journaliste établi à Berne raconte à quoi ressemblait son quotidien en prison, Sergio Ferrari.
Il y avait deux visages. Le visage, c'était le régime brutal de répression quotidienne. L'objectif des militaires qui géraient la prison, c'était la destruction physique, psychologique et idéologique de nous. Et de notre côté, il y avait toute l'unité, la fraternité, la solidarité, et la résistance collective, pour dire comme ça, en utilisant les méthodes les plus originaux pour pouvoir survivre. Et ça, c'est l'essence de notre livre, Ni fou ni mort, qu'on l'a rédigé 20 ans après les fêtes en espagnol et 40 ans après les fêtes en français.
On y retrouve un entretien complet avec Sergio Ferrari sur rfj.ch. Le livre « Ni fou ni mort » sera donc présenté dimanche à 17h à Lagrange à Delémont.
Vous écoutez RFJ, il est 12h29.
Sport. En hockey sur glace, Philippe Michael DeVos disputera la Coupe Spengler pour le Team Canada. Selon nos informations, le joueur du HC Ajoie a reçu une convocation pour participer au tournoi du 26 au 31 décembre prochain à Davos. L'information a été confirmée ce matin à RFJ par le directeur technique du HCA. Vincent Leschen voit cette nouvelle comme une très belle opportunité pour le Québécois. Le club profitera également d'une belle visibilité, selon lui. En ski alpin, les spécialistes de vitesse vont enfin pouvoir lâcher les chevaux. La Coupe du monde féminine fait escale à Lake Louise ce week-end. 2 descentes et 1 super-G sont au programme au Canada. Il s'agit des premières épreuves de vitesse de la saison. L'occasion de briller pour la tessinoise Lara Goud-Berami et la suissoise Corinne Souter. L'occasion d'apprendre aussi pour la fribourgeoise Noémie Colli. À 23 ans, elle va disputer ses premières courses outre-Atlantique et l'adaptation n'a pas été facile. Noémie Colli.
On n'a pas eu de chance avec la météo, ça fait 2 semaines et demie qu'on s'entraîne soit sous la pluie, soit sous la neige, soit avec du vent. Donc c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais je pense que je peux prendre que de l'expérience de ces entraînements et de cet entraînement de hier justement qui était très difficile avec Louise. Ça fait plaisir de se dire qu'on fait partie des meilleurs du monde, qu'on est capable d'être dans ce groupe de Swiss Ski qui est très très fort. Je trouve ça juste incroyable d'être là.
Du coup, ça donne des idées pour cet hiver d'essayer de claquer un ou deux bons résultats là au milieu.
Ouais, bah on espère toujours. C'est vrai que c'est le but, hein. C'est pas notre but de faire des mauvais résultats, mais on verra. Je vais prendre course après course et puis on verra mon niveau de cet hiver.
Noémie Colli au micro de notre confrère de Ski Actu, Laurent Morel. La première descente de l'Écluse est prévue ce soir à 20h30.